Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Et au Saint-Esprit. L'article sur l'Esprit-Saint est de très loin le plus bref de la profession de foi de Nicée. Et au Saint-Esprit. Avant Nicée, on connaît même quelques professions de foi dans lesquelles l'Esprit-Saint est seulement sous-entendu ou encore réduit à un don, comme la rémission des péchés ou la résurrection de la chair. Mais l'idée est déjà bien présente que le don de Dieu, sous ses différentes formes, nous parvient par le canal de l'Église où habite l'Esprit-Saint. À la fin du IIe siècle, saint Irénée écrivait déjà que, je cite, « Là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. » La théologie de l'Esprit-Saint va donc se déployer selon trois dimensions. D'abord, et c'est le plus important, il s'agira de préciser qui il est, et qu'il est Dieu avec le Père et le Fils. Ensuite, il faudra dire ce qu'il a fait dans l'histoire du salut, et ce qu'il fait depuis qu'il a été répandu au jour de la Pentecôte. Enfin, il restera à expliciter son lien avec l'Église. Chemin faisant, nous rencontrerons trois grands contradicteurs des Ariens, aussi saints qu'attachants. On les appelle les Pères Cappadociens, du nom de la région où ils ont vécu aujourd'hui en Turquie d'Asie. Ils seront les maîtres d'œuvre du Concile de Constantinople, qui accomplira pour la foi en l'Esprit-Saint une œuvre analogue à celle de Nicée pour la foi au Fils. La divinité de l'Esprit-Saint ne faisait aucun doute pour les pères de Nicée, mais elle restait tout entière à définir. Le Concile n'a pas affronté ce travail et il n'a même pas jugé nécessaire d'introduire la mention de l'Esprit-Saint par le « un seul » qui introduit celle du Père et du Fils, un seul Dieu, un seul Fils. C'est qu'à l'époque de Nicée, on n'avait pas encore pris conscience que la négation de la divinité du Fils entraînerait fatalement celle de la divinité de l'Esprit. On était dans une période de possession tranquille de la foi en ce même esprit. « Dieu est esprit », a déclaré Jésus à la Samaritaine, Saint Jean chapitre 4. Comment, par conséquent, l'esprit ne serait-il pas Dieu ? L'esprit a d'autres caractéristiques tirées de l'Écriture qui vont dans le même sens et qui contribuent à cette possession tranquille. Son souffle est celui-là même de la vie de Dieu, ce souffle qui planait sur les eaux au moment de la création. Il était envoyé aux prophètes bien avant la venue du Christ. Il n'a pas pris chair, à la différence du Fils. Il a donc toujours été en Dieu, il continue à y rester, même après la Pentecôte, mais il met les hommes en communion avec Dieu, conformément à la promesse de Jésus dans le discours après la scène, « C'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part. » Jean 16, 14 et 15. Alors, comment en viendra-t-on à remettre en question la divinité de l'Esprit ? Cela se produira autour de 360, soit 35 ans après Nicée, et paradoxalement lorsque les affirmations sur le Fils commenceront à s'imposer. On a parlé de choc en retour, comme si on n'arrivait pas à admettre que ce qui avait été dit du Fils doive aussi s'appliquer à la troisième personne. On pensera suffisant de voir en elle une simple force divine non personnelle. Et puis surtout, puisqu'on a expliqué à Nicée qu'il y avait deux manières d'agir de la part de Dieu pour transmettre sa vie, soit d'engendrer, soit de créer, on ne peut tout de même pas dire que l'Esprit-Saint est engendré, car alors on en ferait un second fils. Il semble alors qu'il ne reste qu'une seule solution, puisqu'il ne peut pas être engendré, eh bien il est créé. Ainsi donc, c'est d'une certaine manière l'œuvre réalisée par les pères de Nicée, avec la distinction géniale entre engendrement et création, qui a créé un problème pour l'Esprit-Saint. On ne sait plus comment le situer par rapport à Dieu le Père. De cette difficulté, à vrai dire considérable, deux chefs d'école vont tirer parti pour faire avancer la cause arienne. Il s'agit d'Aès et Eunome. L'histoire de l'Église a retenu leurs deux noms comme les plus représentatifs de l'arianisme dit « radical ». En effet, à une époque où Arius est proche de sa fin, il va mourir vers 336, ce sont deux redoutables dialecticiens qui prennent sa suite. Aès fait du Fils un être radicalement dissemblable du Père, ce qui fait donner à ses partisans le nom d'anoméen, du grec « anomoios » qui veut dire « dissemblable ». Lorsque A.S. meurt vers 367, Eunome, qui a été son élève, va prendre sa suite dans le combat à Noméen. Leur doctrine est simple. De même que le Fils est une créature du Père, de même l'Esprit est une créature du Fils, un sous-produit en quelque sorte. Le troisième en dignité et en ordre, écrit Eunome, et aussi le troisième en nature. Cette doctrine va susciter des réponses qui sont des œuvres magnifiques d'un grand théologien, le Contre-Nome et le traité sur le Saint-Esprit de Basile de Césarée. Le traité sur le Saint-Esprit de Saint Basile nous fait connaître l'argumentation d'Eunome qui repose sur sa lecture de l'Écriture. Il remarque que dans l'Écriture, le Père est celui qui agit, que le Fils est celui par qui il agit et que l'Esprit-Saint est celui en qui il agit. Il en déduit que le Fils et l'Esprit sont de simples auxiliaires de l'action du Père. Les conclusions d'Eunome sont fausses, mais les remarques dont il part sont vraies. Il est vrai de dire que le Père agit par le Fils et dans l'Esprit. En s'exprimant ainsi, on considère ce que les pères de l'Église appelaient l'économie, c'est-à-dire la manière dont Dieu agit dans notre histoire. Comme nous l'avons déjà remarqué, ce sont les trois personnes qui agissent, mais chacune agit selon ce qu'elle est. Tout agir divin part du Père, il passe par le Fils, il est accompli dans l'Esprit. Et quand nous prions, eh bien nous savons que la prière chrétienne atteint toujours le Père en passant par le Fils, qui est notre médiateur, et qu'elle se réalise, s'accomplit dans l'Esprit. C'est pourquoi, lorsque nous disons le Notre Père à la messe, le célébrant introduit ses paroles apprises de Jésus en mentionnant le Fils et l'Esprit. Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, et nous disons le Notre Père. Prenons encore un autre exemple. Quand nous chantons les psaumes, nous avons l'habitude de les conclure par une doxologie, c'est-à-dire une acclamation à la gloire de Dieu Trinité. Nous chantons « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». Et on voit bien que les trois personnes sont mises sur le même plan et reçoivent la même gloire. Mais à l'époque de Saint Basile, les paroles de la doxologie étaient différentes. Au lieu de chanter « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit », on chantait « Gloire au Père par le Fils dans l'Esprit-Saint ». On croyait tout autant qu'aujourd'hui à la divinité du Fils et de l'Esprit-Saint, mais on exprimait la prière de manière économique, la faisant monter vers Dieu par le même chemin que Dieu a adopté pour venir vers nous, par le Fils et dans l'Esprit. Alors pourquoi ne chantons-nous plus aujourd'hui « Gloire au Père par le Fils dans l'Esprit-Saint » Eh bien tout simplement parce qu'à la fin du IVe siècle, on a eu très peur que ces paroles soient interprétées dans un sens arien, comme le faisait Eunome. On a donc préféré oublier cette doxologie et lui substituer celle que nous connaissons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cela nous montre une fois de plus que notre manière de prier et notre manière de croire sont inséparables. Nous prions comme nous croyons, ce qu'exprime le vieil adage « lex orandi, lex credendi », c'est-à-dire « la règle de la prière, c'est la règle de la foi ». Ce principe sera très important pour la partie du credo consacrée au Saint-Esprit, ainsi qu'on va le voir par la suite. Mais revenons à ce que les Ariens disaient du Saint-Esprit. Ils ergotaient surtout sur la manière dont la divinité lui est communiquée. Ils disaient « elle ne peut pas lui être communiquée par naissance, comme celle du Fils, car alors il serait un second Fils, et le Fils serait son frère. On ne peut pas non plus dire que la divinité lui est communiquée à partir du Fils, car alors le Fils serait son père et le Père son grand-père. » Voilà comment certains Ariens tournaient en dérision la foi de l'Église. Et ils en concluaient que l'Esprit-Saint ne pouvait pas être consubstantiel au Père, puisqu'il n'était pas né de lui, et que donc il était inférieur au Père et au Fils. Le premier à répondre à ces fausses objections a été saint Athanase. Il rappelle ce que dit l'Écriture. L'Esprit-Saint vient de Dieu, ses activités sont celles de Dieu, car il sanctifie ce que Dieu seul peut faire. Il renouvelle toutes choses, il donne la vie, il marque de son onction et de son sceau. Bref, écrit saint Athanase, je cite, « Celui qui unit la créature au Verbe ne peut pas être lui-même du nombre des créatures. Celui qui nous donne de devenir fils de Dieu ne peut pas être étranger au Fils. » D'ailleurs, si l'Esprit était une créature, Dieu ne serait plus Trinité et les paroles qu'on prononce au baptême seraient absurdes. Je pense que c'est l'argument qui a le plus de poids. L'Esprit, dit saint Paul, est esprit du Fils et c'est lui qui fait de nous des fils. C'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, l'Épître aux Romains, chapitre 8. Mais tout cela ne répond pas à la question de l'origine de l'Esprit-Saint. S'il n'est pas engendré par le Père, comment provient-il du Père ? Il n'est ni créé ni engendré. Il est, dit Jésus en saint Jean, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Mais que veut dire procéder ? Saint Athanase avait renoncé à creuser plus avant ce mystère. C'est au Père Cappadocien qu'il reviendra de l'affronter.